Voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, nous n'avons pas les ateliers bibliques, il n'y a pas le programme prévu pour les enfants, ça reprendra dimanche prochain. Donc nous allons passer directement à la parole de Dieu, d'autant plus que notre sœur a prié déjà pour que le Seigneur nous accompagne, nous fasse entendre sa voix. Je vous invite à méditer sur le psaume 42. Je continue toujours ma série de prédications sur les psaumes et je vous invite donc à poursuivre, à méditer aujourd'hui, ce matin, sur le psaume 42. Au chef de chœur, poème des fils de Corée. Comme une biche soupire après des corons d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, ô oh oui, ton Dieu. Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu au milieu des acclamations, de la reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme? J'aimais-tu sur moi? Attends-toi à Dieu car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzer. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent et me disent tout le temps, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et j'aimais-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Jusqu'ici, notre lecture. Je ne vais pas commenter l'ensemble de psaumes, mais juste les 6 premiers versets. Pour ce dimanche, ce premier dimanche de l'année, j'aimerais vous demander de faire un petit exercice qui est facile en moi à faire, un exercice d'imagination. Un exercice d'imagination qui va nous faire sortir un peu de nos conditions météorologiques hivernales du jour. Imaginez-vous que vous êtes en plein été avec une grande chaleur, comme par exemple au temps de la canicule. Et vous avez soif. La seule chose que vous voulez vraiment faire, c'est de boire de l'eau fraîche ou autre, mais de boire. Mais vous n'allez pas trouver de quoi vous altérer. C'est cette image que le psalmiste va utiliser. Cette image de la soif que le psalmiste va utiliser pour nous décrire la soif qu'il éprouve lui, non pas une soif d'eau, mais la soif de la présence de Dieu. Une soif qu'il exprime d'une manière remarquable, à vrai dire, dans ce psaume, mais aussi dans la suite, dans le psaume 43. Les deux psaumes, 42 et 43, à vrai dire, ne forment qu'un seul poème. On aurait pu lire, j'aurais pu lire la suite de ce psaume 43. C'est un poème qui est construit d'une manière vraiment solide entre le psaume 42 et le psaume 43. Et d'ailleurs, le psaume 43 ne porte pas le titre. Vous avez le titre qui est au début de psaume 42 qui est valable pour les deux psaumes. Et en plus, il y a le refrain qui revient à chaque fin de section, c'est-à-dire à la fin des 6 premiers versets, à la fin du psaume 42 et après à la fin du psaume 43. C'est le refrain « Pourquoi t'as battu mon âme et j'aimais-tu sur moi? Attends-toi à Dieu car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Avec notre psaume, on commence le deuxième livre du psautier. Vous savez que le livre des psaumes est composé en 5 livres. Et la fin du livre se termine avec une très belle proclamation avec un très bel éclat, pardon, de louange, qui dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. » C'est cela qui termine le psaume 41, et c'est ce verset qui revient à chaque fin des cinq livres qui se trouvent dans le livre des psaumes. Et donc, ce deuxième livre du psaume, qui commence avec notre psaume 42 et qui va jusqu'au psaume 72, on trouve à l'intérieur une série de psaumes qui sont composés par les fils de Corée, qui étaient des musiciens au service du temple. On trouve aussi un psaume d'Asaph, qui est un autre fondateur d'un autre groupe au service du temple. Et puis on trouve des psaumes de David, bien sûr, et on trouve un psaume de Salomon et quelques psaumes anonymes. Notre psaume est le premier de cette série, donc de ce deuxième livre des psaumes, et qui évoque le thème de la soif de la présence de Dieu. Comme vœu pour cette nouvelle année, je ne peux que nous souhaiter, à moi, à vous, vous souhaitez, nous souhaiter, d'avoir toujours soif, soif et encore soif de la présence de Dieu. J'espère que cette soif de Dieu sera toujours grandissante au fur et à mesure que nous passerons du temps dans la présence de Dieu au cours de cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera une soif qui va toujours nous amener à aller encore davantage, à nous tourner encore plus vers notre Dieu. Une soif que, j'espère, de tout cœur, nous conduira à connaître notre Dieu encore de mieux en mieux et à marcher avec lui d'une manière digne de la vocation qu'il nous a adressée. Le psalmiste nous décrit cette soif de la présence de Dieu dans les versets 2 à 3 à l'aide d'une image. À vrai dire, il y a une double image dans l'image de la soif que j'ai évoquée. Il y a d'abord l'image de la biche et puis l'image de la soif. Le psalmiste prend l'image d'une biche parce qu'elle est fragile, et l'image de la soif parce qu'elle est le besoin le plus exigeant et qu'on a du mal à s'en passer, à supporter. Ces deux éléments, la fragilité et un élément important, exigeant, dont on ne peut pas s'en passer. L'image de la soif renvoie à la situation de la sécheresse, de la détresse. Le prophète Jérémie, entre autres, décrit cette situation à plusieurs reprises. Dans le chapitre 14 de son livre, par exemple, il écrit en disant, pour décrire la situation de la sécheresse, il écrit ceci: « Les notables envoient les gens simples chercher de l'eau. Arrivés aux citernes, ils ne trouvent pas d'eau. Ils reviennent avec des cruches vides, embarrassés, ils se voilent la face. Le sol est crevassé car la pluie a manqué. Les cultivateurs, déçus dans leurs espoirs, se cachent le visage. La biche, dans les champs, abandonne son faon après l'avoir mis bas, car il n'y a plus de verdure. Les onagres se tiennent sur les hauteurs, ils flairent le vent comme font les chacals, mais leurs yeux se fatiguent car il n'y a plus d'herbe. » L'image de la soif évoque des réalités difficiles, des réalités dures à supporter pour tous, aussi bien pour les êtres humains que pour les animaux. Et en plus de cette réalité objective, extérieure, difficile à supporter, le psalmiste évoque la fragilité subjective, intérieure à lui-même, celle qui consiste de se retrouver loin de la présence de Dieu. Il souligne cette fragilité à l'image de la biche. Le psalmiste n'utilise pas l'image d'un chameau ou d'une chèvre, comme ils sont des animaux résistants dans le désert, résistants face à la chaleur. Il utilise au contraire l'image d'une biche bien fragile pour décrire la situation de celui qui se trouve loin de la présence de Dieu. Lorsqu'on est loin de la présence de Dieu, nous sommes fragiles, même si souvent, hélas, lorsque nous sommes loin de la présence de Dieu, c'est l'orgueil, l'arrogance qui nous saisit et on pense que nous sommes meilleurs et que nous sommes plus forts que les autres. Or, le psalmiste nous dit, il faut que vous soyez lucides. Lorsque vous êtes loin de la présence de Dieu, vous êtes fragile comme une biche qui a soif. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, La présence de Dieu, en tout cas la présence tangible, entre guillemets, de Dieu se manifeste au temple. Et comme c'est... se manifeste au temple comme c'est le cas lors du temple, de la dédicace du temple de Salomon, lorsqu'il avait prié, la présence de Dieu s'est manifestée d'une manière très forte. Pour les Israélites, donc le temple représente la présence de Dieu. Ne pas avoir accès au temple, c'est ne pas avoir accès à la présence du Seigneur. Le psalmiste nous raconte ici l'expérience de quelqu'un qui est privé, donc de pouvoir aller au temple, qui est privé du temple, donc de la présence du Seigneur. Il se peut qu'il fasse allusion ici à des exilés en Babylone, des gens qui se sont retrouvés loin de Jérusalem et du coup n'ont plus la possibilité de venir au temple, de célébrer le Seigneur pour être présent en personne dans la présence de Dieu. Cette situation d'incapacité d'être dans la présence de Dieu fait retentir un cri de cœur dans le cœur du psalmiste, un cri profond dans le cœur du psalmiste, en disant « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» C'est le verset 3. Nous avons un privilège immense. Un privilège immense que de pouvoir nous approcher de Dieu par Jésus-Christ et en toute liberté, comme nous l'indique l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré et que nous inauguré pour nous, comme un chemin nouveau vivant au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. C'est dans Hébreux chapitre 10. La question que nous pouvons nous poser est de savoir si nous profitons pleinement de ce libre accès que nous avons auprès de Dieu. Prenons-nous régulièrement le temps de venir dans la présence de Dieu? Sommes-nous réellement conscients, à vrai dire, de ce privilège de nous approcher de notre Dieu en toute liberté et surtout en toute assurance en Jésus-Christ? Sur le plan de la communauté, sur le plan communautaire, autant qu'Église, nous pouvons nous demander si nous sommes de ceux qui, de ceux pour qui la vie de l'Église fait partie de leur vie chrétienne, ou bien la vie de l'Église est une option. On vient quand on peut et quand on veut, notamment lors des fêtes religieuses, à la fin de Noël, etc. Quelle est la place que nous accordons à venir à la présence de Dieu en communauté, avec les autres frères et sœurs? Nous pouvons faire des exploits, vivre une vie spirituelle personnelle très riche avec le Seigneur personnellement. Mais cela ne remplacera jamais et au grand jamais le fait de venir avec des frères et sœurs, de s'approcher du Seigneur, avec des frères et sœurs, écouter la parole de Dieu avec des frères et sœurs, louer avec des frères et sœurs. Quelle est la place que nous accordons au fait de célébrer le Seigneur, au fait de venir dans la présence du Seigneur avec les frères et sœurs? Avons-nous cette soif évoquée par le psalmiste, évoquée dans notre psaume? Avons-nous cette soif de venir à Dieu personnellement, de venir à Dieu communautairement? N'attendons pas le jour où nous serons privés d'une chose pour bien l'apprécier. Nous pouvons apprécier une chose même si nous ne sommes pas privés. Nous n'en sommes pas privés. Certes, rien ne pourra nous priver de venir dans la présence de Dieu individuellement. C'est bien entendu. Nous ne laissons pas les soucis de la vie, les préoccupations de ce monde nous priver de venir dans la présence du Seigneur. Mais par contre, sur le plan communautaire, rien n'est sûr. Tout peut arriver. Et il se peut que des frères et sœurs, il se peut qu'un jour, nous n'ayons plus la possibilité de nous rassembler avec des frères et sœurs pour célébrer le Seigneur ensemble. Nous ne devons pas attendre ce jour pour éprouver cette soif de venir dans la présence de Dieu avec les frères et les sœurs. Il se trouve que beaucoup de nos frères et sœurs, dans des pays où ils sont persécutés, en particulier au Moyen-Orient, dans des pays musulmans ou autres, ils aimeraient tellement venir dans la présence des frères et sœurs, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont plus les capacités de le faire. Et lorsqu'ils le font, ils le font en risquant concrètement leur vie. Nous devons donc considérer et profiter, mais dans le sens vraiment positif, profiter de notre privilège d'avoir un accès libre auprès de Dieu, aussi bien sur le plan personnel, mais aussi sur le plan communautaire, ne nous privons pas de cet accès auprès de Dieu avec les frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, aller dans la présence de Dieu, c'est aller au temple, comme je viens de l'indiquer. Ne pas aller au temple, c'est ne pas avoir accès à la présence de Dieu. Certes, le peuple d'Israël est conscient que Dieu est partout, il n'y a aucun problème à cet égard. Mais la manifestation concrète, comme Dieu l'avait promis d'ailleurs à David, à Salomon, etc., se manifeste dans le temple. En plus de cette privation d'aller au temple, le psalmiste entend les gens autour de lui dire « Où est ton Dieu ? Où est ton Dieu ?» La situation difficile dans laquelle se trouve le psalmiste est interprétée comme est interprétée par son entourage comme l'incapacité de Dieu à intervenir dans sa situation personnelle. Ici, en effet, on considère que le psalmiste ici fait allusion aux exilés de Babylone, à ceux qui étaient donc déportés à Babylone. En effet, cette phrase « Où est ton Dieu ?» dans la bouche des païens peut résonner d'une manière dramatique dans le cœur du fidèle du Seigneur. Car cette phrase, les païens laissent entendre que le Dieu d'Israël, finalement, n'existe pas. En tout cas, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'est pas capable d'éviter l'exil à son peuple. Le psalmiste sait que l'exil, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute du peuple. C'est le fruit de la désobéissance du peuple. Et ce n'est pas le résultat ou le fruit de l'incapacité de Dieu à garder son peuple. Mais les païens qui lui lancent cette phrase à longueur de journée ignorent complètement cela. En plus de souffrir de l'incapacité d'aller dans la présence de Dieu au temple, le psalmiste souffre maintenant des paroles qu'il entend autour de lui, ces paroles qui ne cessent de lui dire « Où est ton Dieu ?» Il souffre de ces reproches portés à son Dieu, en l'honneur de son Dieu, contre son Dieu. Il souffre du fait que le nom de son Dieu est déshonoré et que puissance et la réalité même de son Dieu sont mises en cause, sont bafouées, sont niées. Voilà ce qui le fait souffrir encore davantage. Le psalmiste est déchiré. Il est déchiré donc par le propos de ces gens, que ces gens tiennent à l'encontre de son Dieu. Il souffre de sa situation d'exilé, de sa situation difficile qui est simplement interprétée comme une impuissance de Dieu, voire comme une non-existence de Dieu. Il y a des situations difficiles dans la vie, en effet, qui font penser à ceux qui nous entourent comme si notre Dieu est incapable d'intervenir dans notre vie, comme si notre Dieu est incapable d'agir et de changer les circonstances. Dans notre cheminement avec Dieu, il arrive en effet. Il arrive que parfois les voies de Dieu deviennent impénétrables, y compris pour nous les croyants, deviennent difficilement saisissables, deviennent parfois incompréhensibles, même pour nous croyants. Une situation familiale difficile, une situation conjugale très complexe peut faire dire à ceux qui nous entourent « Mais où est votre Dieu ? Vous dites que vous êtes chrétien, que vous avez fondé votre fille, votre couple, votre famille sur Jésus, sur votre Dieu. Mais que fait-il ? Il est, où est votre Dieu ?» Une situation difficile sur le plan professionnel peut donner aussi lieu à de vives critiques de la part de nos collègues. Surtout s'ils savent que nous sommes chrétiens et qu'ils ne cherchent qu'une occasion propice pour lancer des flèches. Où est ton Dieu ? Pourquoi ton Dieu n'est pas venu à ton aide ? Face à une maladie grave, durable, certains des non-croyants qui nous entourent ne se gênent pas de nous dire « Où est ton Dieu ? Où est votre Dieu ? Que fait votre Dieu ?» D'une manière ou d'une autre, ils ne cessent de nous faire comprendre, aussi bien d'ailleurs par leur dire que par leurs attitudes, leurs actes, que visiblement notre Dieu est inactif, voire inexistant. Face à la persécution, des chrétiens frappés, violés, privés des droits les plus élémentaires. Leur entourage, non chrétien, n'hésite pas à leur dire, mais votre Dieu est-il incapable de vous protéger? N'est-il pas le Tout-Puissant? Où est votre Dieu? Pourquoi votre Dieu n'intervient pas pour vous délivrer? Pourquoi il ne vous préserve pas de cette violence qui se déchaîne contre vous? Tous ces commentaires portant atteinte à Dieu, portant atteinte au nom de notre Dieu, rajoutent à la douleur que nous pouvons éprouver face à ces moments difficiles que nous pouvons traverser. En effet, voir le nom de Dieu déshonoré, bafoué, par ignorance souvent, par les gens qui nous entourent, parce qu'ils ne le connaissent pas, c'est pour ça qu'ils disent cela, souvent en tout cas, peut souffrir en effet. Chacun d'entre nous, tout comme ça fait souffrir le psalmiste. Entendre des phrases comme « Où est ton Dieu ?» plonge le psalmiste dans une réelle détresse au point de dire au début du verset 4 « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Jour et nuit, mes larmes sont ma nourriture à cause de cette situation. Que faire? Que faire face à cette double peine? L'incapacité d'aller dans la présence du Seigneur, dans le temple, dans la présence du Seigneur, et la critique de ceux qui nous entourent en disant que votre Dieu ne fait rien. Le psalmiste s'appuie sur deux choses. D'abord, il évoque le souvenir qu'il a de Dieu, ce qu'il a vécu avec Dieu, le souvenir d'être allé dans la maison de Dieu. Et il le dit au verset 5, « Voici ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais dans la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu. » Au milieu des acclamations, de la reconnaissance d'une multitude, en fait, le souvenir des moments bénis, le souvenir des moments riches, vécus en communauté, dans la présence de Dieu, vécus en allant au temple pour lui rendre gloire, pour rendre gloire et honneur au naissant Dieu. Le souvenir de ces moments passés au temple, donne en effet, redonne la force, le courage au psalmiste. Le psalmiste fait allusion ici certainement à ces fêtes religieuses qui sont célébrées régulièrement dans l'année, qui sont connues et qui sont accompagnées par des chants, des acclamations, de la reconnaissance et des moments très forts que le peuple vit autour du Seigneur et dans le temple à Jérusalem. Notre psalmiste fait partie certainement de ces cortèges, de ces gens qui montent au temple pour chanter et célébrer le Seigneur, comme il fait partie des fils de Coré, peut-être même il fait partie de, soit il conduit ces temps de chant, ou peut-être il fait partie simplement de la chorale, mais en tout cas, il vit les choses de l'intérieur, vraiment de ce groupe qui chante et qui célèbre le Seigneur. Il y a d'ailleurs tout un groupe, excusez-moi. Il y a d'ailleurs tout un ensemble de psaumes, à partir de psaume 120 jusqu'au psaume 134, qui sont écrits spécialement pour être chantés. En tout cas, ils sont chantés. Je ne sais pas s'ils sont écrits spécialement pour ça, mais ils sont chantés lorsqu'on monte vers Jérusalem pour célébrer, vers Jérusalem et vers le temple, lors des fêtes religieuses. Le souvenir donc d'une belle vie religieuse, lorsque les circonstances le permettaient, a été une source d'encouragement, une source d'édification pour le psalmiste. Il est important de ne pas oublier les bons moments vécus avec le Seigneur. Il est important de ne pas oublier les bons moments que le Seigneur nous donne de vivre, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan communautaire en Église. Car ces moments peuvent être très utiles et peuvent être d'une source extraordinaire lorsque l'épreuve sera là, lorsque les heures sombres seront là. Je me rappelle d'un témoignage d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui disait, au moment de l'épreuve, elle passait par des moments de l'épreuve, et la seule chose qu'elle avait retenue de garder la foi, c'était son baptême. Le jour de son baptême, le jour où elle s'est engagée par le baptême. Et c'est uniquement le seul souvenir qui lui est resté, et c'est cela qu'il avait protégé dans les moments sombres de sa vie, de ne pas lâcher la foi. Et elle est très très heureuse que le Seigneur s'est servi, parce qu'elle est revenue vers le Seigneur, l'Église, elle est très heureuse et elle est très reconnaissante au Seigneur d'avoir utilisé cet événement passé dans sa vie pour la protéger dans les moments difficiles qu'elle a rencontrés. Avons-nous des souvenirs, des moments dans notre marche avec le Seigneur, sur le plan personnel, mais aussi autant qu'Église, qui peuvent nous être utiles si les moments difficiles frappent à la porte? N'oublions pas ce que le Seigneur a fait pour nous, personnellement comme communautairement. Autant qu'Église, nous avons pris il y a quelques années de cela, de fêter les 125 ans de l'Église. Nous avons vu franchement et objectivement que le Seigneur a fait de très belles choses pour notre Église et qu'il continue encore à faire de belles choses. Et sur le plan personnel aussi, nous devons cultiver la mémoire de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il nous faut nous souvenir, ne pas oublier les actes merveilleux que Dieu a accomplis à notre égard. La deuxième chose que le psalmiste évoque face à ceux qui disent « Où est finalement ton Dieu ?» c'est l'espérance qu'il a en Dieu. En plus de souvenir des actes passés accomplis par Dieu, il y a l'espérance et l'attente en Dieu qui agira, qui interviendra le moment venu, qui fera le nécessaire le moment venu. Il ne s'agit pas donc de vivre uniquement dans des acquis de passé, mais il nous faut nous attendre aussi à l'action présente de Dieu. Il faut nous attendre aussi à l'action future de notre Dieu. Le psalmiste dit à son âme au verset 6, « Pourquoi t'abattu et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » Le psalmiste dit clairement sa confiance en Dieu et son assurance que le Seigneur interviendra le moment venu pour lui permettre à nouveau de le célébrer. Dire que je vais célébrer le Seigneur à nouveau, c'est dire que je vais retrouver le temple et donc la présence du Seigneur. Voilà ce que le psalmiste dit au verset 6. Il dit « Attends-toi, car je célébrerai encore son salut, le Seigneur, pour son salut. » Le psalmiste reconnaît bien la situation difficile, désastreuse qu'il traverse. Il ne nie pas du tout la réalité. Il ne fait surtout pas la politique de l'autruche. Voilà, c'est bon ? Ah, c'est pas grave. Non, c'est fait, il n'y a pas de souci. Je reprends. Donc, le psalmiste reconnaît bien la réalité, la difficulté de l'épreuve. Et il utilise les termes très forts pour dire la dureté, la détresse qu'il vit vraiment le moment venu. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu? Les questions de l'abattement et les questions des gémissements. Et vous savez même, notre Seigneur Jésus, il ne va pas fuir, il ne va pas cacher. Sous prétexte d'une fausse spiritualité, il ne va pas cacher la dureté des moments exigeants face à la croix. Qu'est-ce que Jésus dit ? Mon âme est troublée, est angoissée. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Donc il ne s'agit pas pour nous d'occulter la dure réalité de l'épreuve. Mais en même temps, le psalmiste, il dit avec force son attente, son espérance dans le Seigneur. Mon âme, attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Le psalmiste affirme que le Seigneur interviendra, que le Seigneur le délivrera. Il affirme que le moment venu, il célébrera le Seigneur dans son temple. Donc le temple, à nouveau, sera reconstruit et il célébrera le Seigneur. Si le psalmiste évoque la situation d'un exilé, comme je disais tout à l'heure, il faut dire que cette attente est vraiment exaucée après les 70 ans de l'exil annoncé par les prophètes. On parle du peuple de Juda, hein, annoncé par le prophète notamment Jérémie. Eh bien, le peuple est revenu à nouveau à Jérusalem. Et lors de ce retour se fera en trois étapes et qui va durer à peu près presque un siècle en tout. Et la première étape va aboutir à la construction du temple. C'est les 6 premiers chapitres du livre d'Esdras qui rapportent cela. Il y aura la construction du temple sous la direction de Josué, le grand prêtre, et de Zorobabel, l'un des derniers fils, petit-fils du dernier roi qui a régné sur Juda. Donc, le psalmiste avait tout à fait raison de s'attendre au Seigneur, de s'encourager à s'attacher au Seigneur et d'espérer en lui, car le Seigneur est fidèle et juste pour accomplir ses plans de bonheur qu'il a formés sur son peuple, pour accorder un avenir plein d'espérance qu'il a en réserve pour ses bien-aimés. Tout comme pour le psalmiste, nous devons nous aussi nous attendre au Seigneur lorsque nous passons par des mauvaises passes, car le Seigneur a toujours su prendre soin de ses enfants, il a toujours su pourvoir aux besoins de ses enfants, même face à la vallée de l'ombre et de la mort, comme dit le psaume 23. Nous ne devons pas oublier cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Dieu qui n'a même pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ?» Nous attendre au Seigneur ne doit pas nous faire fuir, bien sûr, la réalité du présent. Au contraire, nous devons reconnaître la réalité du présent, la réalité de l'épreuve, sa dureté, pour mieux apprécier la délivrance du Seigneur. Si on passe notre temps à minimiser l'épreuve, on ne va même pas apprécier la délivrance du Seigneur. Nous devons reconnaître la réalité de l'épreuve, la dureté de l'épreuve, pour apprécier à sa juste valeur la délivrance du Seigneur. Face à nos difficultés, qu'elles soient personnelles, familiales, professionnelles ou autres, nous devons les reconnaître telles qu'elles sont, pardon, dans un premier temps, et dans un second, nous attendre au Seigneur. Telle est l'attitude du fidèle du Seigneur. Lucidité face à la réalité et espérance devant le Seigneur, confiance, attente dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous assure que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Et l'histoire des hommes qui ont marché avec le Seigneur dans l'Ancien Testament montre très bien que Dieu a fait concourir toutes choses à leur bien. L'un des exemples les plus éclatants est celui de Joseph. Joseph a connu des moments difficiles. Le rejet, il a été vendu par ses frères, le rejet par sa famille. Il s'est trouvé en prison, c'est des heures noires. Mais à la fin, on se rend compte, à la fin de sa vie, qu'en effet, le Seigneur a fait concourir toutes choses au bien de Joseph, en vue de plans qu'il a formés sur Joseph. Cela n'exclut pas du tout la responsabilité aussi bien de ses frères et de tout ce qui lui ont fait du mal. Ils auront des comptes à rendre. Mais ceci dit, pour Joseph, qui a voulu rester fidèle et aimer le Seigneur, pour Joseph, le Seigneur l'a protégé, le Seigneur a été avec lui, a fait concourir toutes choses à son bien. Je m'attends à toi, Seigneur. Une phrase que pouvons dire, redire face à l'épreuve, quelle qu'elle soit. Mais nous ne sommes pas obligés d'attendre l'épreuve, les moments d'épreuve, les moments difficiles pour vivre dans la présence du Seigneur. Au contraire, surtout pour nous, il nous faut nous préparer dans les bons jours, ici dans les meilleures conditions, qu'on peut mieux se préparer pour les mauvais moments ou pour les mauvaises conditions. Si maintenant, tant qu'il fait encore jour, qu'il nous faut chercher la présence de Dieu. C'est maintenant, tant que la lumière est encore là, qu'il nous faut encore marcher avec le Seigneur. Et c'est aujourd'hui, sans attendre les moments difficiles, qu'il nous faut avoir soif de la présence de Dieu. Jésus a promis de ne pas mettre dehors ceux qui viennent à lui, ceux qui se tournent vers lui. Au contraire, il nous invite à venir vers lui, nous qui sommes fatigués, chargés, pour nous donner le repos, le vrai, c'est-à-dire celui dont notre âme a besoin, celui que les choses de ce monde ne peuvent satisfaire. Ne nous privons pas donc de ce repos de l'âme au quotidien que Dieu veut nous offrir à chacun d'entre nous en Jésus-Christ. Nous pouvons le recevoir par Jésus dans la présence de notre Dieu. Nous vivons dans un monde où nous sommes tellement sollicités, et le risque de faire passer au second plan notre relation avec Dieu, de faire passer au second plan la présence, de chercher la présence de Dieu, est un risque réel et très sérieux. Pour nous rendre compte, il suffit simplement de regarder combien de temps avons-nous pris avec le Seigneur hier, avant-hier, la semaine dernière. Et par rapport au temps que nous avons pris avec des amis, avec la famille, avec les copains, avec tout le monde. et nous arriverons à faire les comptes très facilement. Il y a tellement de choses qui nous sollicitent. Et on peut se réveiller et coucher sans voir la journée passer. Tellement remplie parfois des choses inutiles. Nous devons veiller. Nous devons avoir cette faim et soif de Dieu. Je veux nous souhaiter, en tout cas pour cette nouvelle année, une réelle soif de Dieu, cette soif qui va nous empêcher d'avoir l'âme en paix tant que le Seigneur n'a pas encore la première place dans notre journée, dans notre vie, dans nos choix, dans nos projets. C'est tout ce que j'ai trouvé de meilleur à vous souhaiter pour cette nouvelle année. Une vraie soif à vous, mais aussi à moi d'abord et à vous. Nous souhaiter à tous pour cette nouvelle année une soif de Dieu toujours grandissante. Amen.